Notre prochaine invitée est une figure majeure de la littérature québécoise. Lauréat du prix Anastase David, l'auteur et comédien Robert Lalonde, donc, est avec nous pour nous présenter son plus récent ouvrage publié chez Boréal, au titre magnifique d'ailleurs, « L'imagination donne les vraies tendresses », un roman épistolaire audacieux où il s'invente une correspondance avec le grand Gustave Flaubert. Monsieur Lalonde, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, mon cher.
Ah, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Moi, j'ai lu ce livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je le dis d'emblée pour que ça soit clair que je suis biaisé. Ah. J'ai aimé le livre. Alors, allons-y. Le titre, c'est une formule de Flaubert, n'est-ce pas?
Oui. J'ai pris ça directement dans la correspondance de Flaubert, oui. Ça revient dans quelques-uns de ses livres. Il aimait beaucoup cette expression.
L'imagination que donnent les vraies tendresses. Ça signifie quoi pour vous?
Ben, ça veut dire que quand on a un rapport d'amitié, par exemple, d'amour ou d'amitié, comme celui que j'ai avec Flaubert, il est permis d'avoir l'imagination que j'ai eue, moi, en tout cas, de faire en sorte que même si c'est 144 ans qui nous séparent, on continue d'avoir une correspondance.
Oui.
C'était ça l'idée au départ. Et donc, je me dis que quand on aime vraiment quelqu'un qui a été important pour nous, l'imagination peut combler des moments de réalité, en fait. Donc, on peut sortir de la réalité pour raconter quelque chose. Ouais, c'est ça.
On sait que vous avez lu et relu sa correspondance depuis 50 ans, l'appelant même votre vitamine. Pourquoi Flaubert en particulier est-il si important, même, et ça méritait une conversation d'outre-tombe comme celle-ci?
Mais c'est toujours le principe du mentor un peu. Il a été un peu mon mentor, Flaubert, surtout dans sa correspondance depuis que je suis assez jeune. J'ai des passages soulignés de ses lettres dans toutes les tomes de sa correspondance depuis des années. Et je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de témoigner un peu de cette influence qu'il a eue sur moi d'abord, et puis ensuite de je me suis pris au jeu de comparer son siècle au mien, en fait.
Ouais.
Puisqu'on vivait à 144 ans d'écart, il y a des choses très différentes et des choses pareilles qui se passent dans le monde. Donc, on converse un petit peu sur l'amour, sur la littérature, sur la guerre, sur la violence, sur la bêtise humaine, sur l'espoir, sur la famille, sur toutes sortes de thèmes qui lui étaient chers et qui me le sont à moi aussi. Donc, j'ai commencé ça comme un jeu, un peu, en me disant, je fais ça pour m'amuser, ça ne fera pas forcément un livre, mais je me suis pris au jeu jusqu'au bout, puis finalement, j'en suis venu à vous de cette façon-là, ouais.
En fait, c'est ça. C'est un échange genre d'atelier. Vous croisez le fer, hein, parfois, avec Flaubert sur l'idéal de la littérature. Vous tracez par certains parallèles, je pense, entre son époque et celle-ci. Comme vous venez de dire, la bêtise qu'il vilipendait et que vous voyez triompher aujourd'hui. Alors, parlez-moi un peu de comment tout ça s'est... je ris, mais ça m'a pris du temps. Au départ, je le lisais, puis je me dis, ah, mais c'est tellement... l'écriture est belle. Puis après ça, je me dis, mais non, mais on peut rire, là. C'est drôle ce qu'il raconte.
C'est pas un moment très drôle.
Oui.
Flaubert était quelqu'un de désopilant un peu, assez comique, et son ironie sur ses contemporains était très forte. Il a payé le prix cher, d'ailleurs.
Oui.
On l'a même traîné en procès pour avoir écrit Madame Bovary. Il y avait cette espèce d'idée que la littérature peut changer énormément de choses, mais qu'il y a un certain nombre d'obstacles, des fois, à faire paraître des choses qui pourraient déranger un peu les gens. Lui, il s'est pas gêné pour le faire. Moi non plus, d'ailleurs. Fait que là-dessus, on se ressemblait assez. Et puis, j'avais envie, puisqu'il est toujours un peu neurasthénique, hein, il est toujours un petit peu plaignard et assez mal dans sa peau. J'avais envie en même temps de le consoler par certaines de mes lettres en lui disant que s'il était ici en ce moment avec moi, on aurait beaucoup de plaisir à évoquer tout ça. À son joyeux nos deux voix. Donc, j'ai fait en sorte que cet échange-là soit vraiment une forte et durable leçon d'amitié, en fait.
Il y avait beaucoup de pessimisme, hein, chez Flaubert, vous le dites bien.
Ouais.
Vous l'invitez à ne pas désespérer, évidemment.
Oui,
en fait, vous lui décrivez, puis ça, je trouve ça intéressant, des innovations de notre siècle comme une façon d'aimer, hein, qui accorde les qualités entre les deux sexes. C'est inconnu dans son temps.
Ouais.
Oui. Je trouve ça intéressant. Est-ce que il n'y a pas un peu pour vous une façon aussi de dire oui, on a évolué et non, parfois on a évolué peut-être pas dans le bon sens, mais dans ce cas-ci, c'était dans le bon sens, là.
Alors, c'est dans le bon sens pour ce qui est du rapport homme-femme,
Oui.
c'est sûr, par rapport au 19e siècle, ça c'est clair. Par rapport à l'amour aussi, que Flaubert craignait beaucoup, parce qu'il avait l'impression, il avait une telle vénération des femmes qu'il disait, je vais leur gâcher la vie, j'ai trop un mauvais tempérament, je suis pas fait pour ça, j'ai été malheureux en amour, mais c'est de ma faute, etc. Moi, je lui disais à quel point maintenant les choses avaient changé, les rapports entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus égalitaires qu'ils étaient. Par contre, sur la bêtise et sur la guerre et sur la violence et sur l'esclavagisme et sur les ce qu'on pourrait appeler les génocides qu'il y a à travers le monde, je lui raconte le 20e siècle à un moment donné parce que je dis il n'en sait rien, donc je lui raconte en gros ce que c'est ce qui s'est passé après lui. Et bien sûr, il a je dirais l'ironie de me dire que ça ne l'étonne pas pantoute, que l'humanité est pas, sur certains points n'est pas plus évoluée que ça ne l'étonnait pas. Il n'avait jamais eu une grande confiance en l'avenir non plus. Donc, c'est un échange sur comment faire durer l'amour et l'art, en fait, à travers toute les catastrophes qui nous entourent. C'est sûr que j'ai été allumé par l'approche du fascisme un peu dans notre propre monde,
Oui.
ça m'a servi d'exutoire aussi en même temps à moi de faire ça.
Et surtout que, et puis je pense que vous prenez la peine aussi en fait, vous mentionnez un peu vos origines à vous, en fait, votre appartenance au peuple Ganyangiraga. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant de lui en parler. J'ai trouvé ça bien comment vous l'avez amené. C'est important pour vous de parler de cette partie de vous?
Ah ben oui, parce que ça m'a permis toute mon éducation en tant qu'enfant et jeune adolescent m'a permis, surtout avec ma grand-mère, et de ne pas voir le monde en noir et blanc, de ne pas voir le monde avec de pas rechercher le bonheur à tout prix, mais d'accepter la vie un peu comme elle est. J'en ai un petit peu contre toutes les recettes de bonheur qu'on entend un peu partout. Moi, je veux dire, des fois, j'ouvre un magazine, puis je me dis, mais voyons, mais moi, je fais rien comme du monde. Ma foi, je fais rien de tout ça. Et pourtant, je pense que je vis une vie quand même assez heureuse. Donc, c'est tous les dictats, en fait, que je regardais encore un magazine chez mon dentiste l'autre jour, comment coucher un enfant dans un lit pour pas qu'il se passe quelque chose de grave sur le côté, sur le dessus, suspendu. Bon, ça devient complètement fou, cette espèce de désir de se protéger des choses difficiles qui pourraient arriver. C'est comme si c'était une tare ou une maladie que de souffrir et d'avoir mal par moment, etc. Donc, je me suis un petit peu appuyé sur Flaubert qui disait un peu la même chose en disant, qui c'est qui nous avait garanti qu'on allait vivre une vie paisible et à l'écart de tout danger? C'est absurde de vouloir ça parce que la vie n'est pas faite comme ça. Ma mère était comme ça aussi. Ma mère est morte à 94 ans en me disant, mon petit gars, voyons, donc toi, il faudrait que tu sois heureux tout le temps. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La vie est bien plus compliquée que ça, beaucoup plus difficile, beaucoup plus belle aussi. Qu'est-ce que vous en faites, de ce que tu en penses. Ça me choquait quand j'étais jeune, quand elle me parlait comme ça, mais à mesure que le temps a passé, je me suis un peu rangé de son avis.
En tout cas, c'est une lecture qui est faite du bien. Puis, si je peux me permettre, hein, on est à quelques jours de Noël. Les gens qui cherchent des cadeaux, c'est rapide d'aller chercher un livre en librairie. En librairie, c'est ça. Je mêle toujours, j'ai travaillé en anglais longtemps, puis je mêle toujours des fois bookstore et librairie. Il faut que j'arrête ça, là.
Librairie, bibliothèque.
Oui, voilà. C'était vraiment fabuleux de lire ce livre-là, et puis je le recommande, en tout cas personnellement, comme lecture du temps des fêtes. Bon, on vous souhaite
vous
de
faites ma journée.
vous passer des bonnes fêtes, Robert Lalonde. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Je rappelle donc le titre du livre, L'imagination que donnent les vraies tendresses. C'est publié aux éditions du Boréal.
Je vous souhaite de très belles fêtes aussi à vous.
À vous pareillement. Merci.
Merci.